Aujourd'hui, nous allons voir acte 3, l'ensemble du chapitre. Alors, j'ai demandé de l'aide, j'ai demandé à Cédric s'il veut bien me lire acte 3 du verset 1 jusqu'au verset 11. Oui, oui, non, mais prends ton temps, il n'y a pas de souci. Là, pour l'instant, je distribue les tâches, si je puis dire. Acte 3, versets 1 à 11.
Vous dites 1 à 11.
Oui, 1 à 11.
D'accord, c'est bon.
Après, je demanderai à Thomas s'il veut bien me lire du verset 12 jusqu'au verset 16. Oui, 16 compris, absolument, 16 compris. Et ensuite, je vais demander à Graziella si elle veut bien me lire du verset 17 jusqu'à la fin. C'est bon.
Guérison d'un boiteux. Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé Labelle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche ». Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon.
Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre naissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous.
Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités.
Merci pour cette lecture. Donc là, nous assistons à un miracle. Dans la Bible, il y a beaucoup de miracles. Mais je crois, et je pense que vous serez d'avis avec moi, le plus grand miracle auquel on puisse assister, c'est effectivement la repentance et la conversion d'une personne, l'acceptation dans son cœur que Jésus-Christ devienne son Seigneur et Sauveur personnel. Toute la Bible, on va dire, tourne autour de ça, la repentance et la conversion, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et vous reconnaîtrez qu'il est très difficile de persuader une personne, même au travers de la Bible et des versets, de faire accepter une personne que Jésus-Christ puisse être son sauveur. Pourquoi ? Parce que il faut que, à mon avis, à la base, il y ait une demande, un besoin, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Une personne qui s'estime heureuse dans son mode de pensée, dans sa vision des choses, et pour qui tout va bien, a priori, bien que ce ne soit pas vrai, n'a pas besoin de Dieu, n'a pas besoin de Jésus-Christ, selon elle et selon son concept. Donc ça nécessite à la base qu'il y ait dans la personne, malheureusement peut-être une tristesse ou une grande fracture, une grande dépression ou un mal de vivre, ou enfin que sais-je, beaucoup de choses qui fassent qu'en elle-même il y ait une prédisposition. Et au travers de ce chapitre, nous allons voir comment Pierre et Jean, justement, selon moi, essayent de toucher le cœur des Juifs au travers du miracle qu'ils viennent de réaliser en invoquant le nom de Jésus-Christ. Donc, dans la première partie, donc, qui était lue par Cédric, de 1 à 16, on a la mise en situation. C'est-à-dire, on voit Pierre et Jean qui montent pour la prière de la 9e heure, c'est-à-dire à 3 heures de l'après-midi, quelque chose qui est routinier et auquel tous les Juifs participaient tous les jours, vraisemblablement. Donc, il faut se mettre dans ce contexte. C'est-à-dire une vie où les gens mènent leur vie, bien sûr, quotidienne, mais également une vie avec, je vais dire, une certaine religiosité, c'est-à-dire aller au temple, prier. Tout ça fait partie de leur vie, tout ça fait partie de leur concept. C'est le monde dans lequel ils vivent, c'est lequel dans le monde ils adhèrent. Ils ont tous passé cet arrière-plan que la nation juive a été créée par Abraham, puis Isaac, puis Jacob, que Dieu donc s'est adressé à leurs ancêtres, les a fait sortir d'Égypte. Donc ils ont vraiment tout ce concept historique en eux, le fait qu'ils ont tourné pendant 40 ans en rond dans le désert avant de pouvoir entrer dans la terre promise par le Seigneur, avec toutes les difficultés, avec tous les combats que leurs ancêtres ont menés pour en arriver là, donc à cette terre d'Israël. Et il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être un mois et demi, deux mois, ils ont crucifié un homme qui prétendait s'appeler, enfin qui prétendait être le Fils de Dieu. Ça en a touché certains, d'autres considèrent que peut-être c'était un illuminé, un prêtre. Voilà. Donc ils sont dans ce concept-là, ils baignent dans cette atmosphère-là. Donc, troisième heure, les gens se rendent au temple. On va dire que peut-être que pour certains, c'est une routine. Ils y vont parce que c'est l'habitude, il faut le faire. Ils mènent une vie religieuse, mais ils n'ont pas une vie de relation avec leur Seigneur. Ils ne vont pas au temple parce qu'ils vont aller rencontrer leur Seigneur, leur Dieu. Non, ils y vont parce que voilà, ça fait partie de la vie et qu'on le fait. Et puis on va se retrouver parmi les autres, on va se saluer. On va aussi faire voir que on est présent, donc on est quelqu'un en apparence de pieux peut-être. Voilà, donc il y a tout ce contexte. Et ils ont l'habitude de rentrer au temple et de voir ce paralysé-là, qui est là depuis de nombreuses années, à mendier, à faire la manche, qui ne marche pas, qui est impotent depuis de la naissance. Donc lui aussi, il fait partie du décor, si je puis dire. Tous les jours, ils vont le voir, tous les jours, ils le voient en train de demander l'aumône. Peut-être que certains lui donnent, d'autres se fatiguent, disent encore lui, il y en a marre. Enfin bref. Voilà, donc c'est cette atmosphère, cette routine, cette... Ce décor donc, auquel nous assistons dans cette première partie. Et ensuite, se produit donc la stupeur, l'ébahissement. Nous voyons donc que Pierre et Jean, rentrant, croisent le regard de cet impotent, qui s'attend à ce qu'il leur donne, que Pierre et Jean lui donnent quelque chose, et ils n'ont rien à lui donner. Il faut se rappeler que les apôtres étaient de conditions très humbles. Pierre était un pêcheur, pêcheur de poissons, mais aussi un pêcheur, comme nous tous ici. Mais avant tout, un pêcheur, et donc, c'était pas quelqu'un de riche, quoi. Et il vivait ou il survivait. Et donc, cet impotent s'attend à ce que Pierre et Jean lui donnent quelque chose. Mais ils n'ont rien à lui donner. Et la seule chose qu'ils ont à lui donner, c'est de partager leur foi, leur conviction. Et donc Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, dans le verset 6, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. À ce moment-là, se produit le miracle. Pierre lui prend par la main droite, le lève et il se met à marcher. Donc, dans l'assemblée, quand ils voient et quand les juifs qui sont dans le temple voient cet impotent qui était resté à la porte belle parce qu'il ne pouvait pas marcher, rentrer à leur compagnie et marcher, ça les fait d'une bombe dans leur microcosme de vie quotidienne, de religiosité, d'aller au temple, d'aller faire les prières, de repartir pour mener leurs activités quotidiennes. Cet impotent, ça fait des années qu'il est là, qu'il ne marche pas depuis sa naissance et qu'il marche, c'est quelque chose mais d'extraordinaire. Il faut se replacer dans ce contexte-là. Et rappelez-vous pour vous également, alors dans un cadre différent, mais le fait extraordinaire que cela a causé, tout d'un coup, quand vous avez cru accepter le Seigneur, le changement qu'il y a eu en vous, il n'y a que vous qui connaissez ça, parce que c'est votre histoire personnelle, et ça a été, on va dire, une tempête ou quelque chose d'extraordinaire en vous. Parce que tout d'un coup, votre vision des choses, votre esprit a complètement changé. Un peu, vous savez, comme les boussoles. Une boussole, quand vous regardez le nord, l'aiguille tourne. Elle flotte là, sur un liquide qui lui permet d'être uniquement animée par le magnétisme. Et tout d'un coup, votre boussole, elle a fait un tour. Elle a changé de direction. Et là, tout d'un coup, un panorama nouveau s'est ouvert à vous. Quelque chose encore que vous n'avez pas eu le temps de pouvoir appréhender, parce que vous ne connaissiez pas la parole. Vous n'aviez pas encore une relation intime avec le Seigneur. Mais c'était le début. Et donc, pour les Juifs, voir cet impotent marcher, c'était quelque chose d'inattendu. Ils ne se sont pas encore, pour certains, convertis. Mais voilà, il y a un effet de surprise. Donc, le contraste est saisissant entre, encore une fois, cette habitude, leur vision des choses, leur façon de vivre, et tout d'un coup, cet homme qui est paralysé, et qui, selon eux, devait rester paralysé à vie, parce qu'il n'y avait aucun moyen pour qu'il puisse à nouveau marcher. Et là, tout d'un coup, il marche. Donc, ce miracle pose question. En tout cas, ils devraient à eux leur poser question. Comment un tel miracle peut se produire près de nous? Et donc, dans le verset, à partir du verset 12, Pierre commence à expliquer l'origine du miracle. Donc là, on voit l'évangélisation qui commence. Alors, Pierre leur pose la question. « Hommes israélites, pourquoi vous tenez-vous de ceci ?» Verset 12. Autrement dit, vous qui êtes témoin du miracle qui vient de se produire, qu'est-ce qui vous choque? Qu'est-ce qui produit en vous ces témoins, cette surprise? Pourquoi êtes-vous étonnés? Donc il leur demande de s'interroger, de se remettre en question par rapport à ce qu'il vient de produire. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire qui pour eux leur paraît si vraiment extraordinaire? Donc il leur demande de s'analyser, de s'interroger. Deuxième question que Pierre pose aux Juifs qui sont témoins, ou pourquoi avez-vous les yeux arrêtés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Donc pourquoi vous tenez de ce miracle? Et ensuite, pourquoi pensez-vous que peut-être c'est nous qui, par notre propre puissance, avons fait marcher cet homme-là? Quelles sont les raisons qui vous font penser que nous, entre parenthèses, humble pêcheur, sans argent, au plus bas du niveau social de la société juive, qu'est-ce qui vous fait penser que nous, on puisse avoir un tel pouvoir pour faire marcher cet homme? Interrogez-vous. Donc là encore, Pierre veut faire ressortir le contraste qu'il y a entre leur train-train quotidien et ce qui vient de se passer, et également ce que eux sont vis-à-vis de la société juive. Il ne faut pas partie de l'élite juive religieuse ou d'un point de vue matériel. Ils sont au plus bas de l'échelle sociale. Pour résumer, je dirais que la question est la suivante. Je la mets entre guillemets. Comment des va-nu-pieds, ou des gens qui sont considérés comme vraiment pas grand-chose, comment des va-nu-pieds pourraient-ils produire un miracle? Et Pierre, bien sûr, ne s'attribue pas le mérite d'avoir fait le miracle. Et là, il commence une explication en s'appuyant sur les fondamentaux que tout juif, même religieux, et surtout religieux, connaît. C'est-à-dire, d'où ils viennent, qui sont-ils ? Verset 13, Pierre dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son fils Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, quoique celui-ci eût jugé qu'il devait être relâché. Donc Pierre s'appuie sur ce qu'on appelle couramment des fondamentaux que tous les Juifs connaissent. Ils savent que leur nation, le peuple qu'ils sont, n'a pu devenir un peuple que parce que Dieu s'est adressé en premier lieu à Abraham. Et souvenez-vous, Dieu avait demandé à Abraham de sortir de sa famille, de sortir de sa région et de partir en nomade. Et en résumé, en substance, Dieu avait dit à Abraham, donc là ce que je fais c'est un résumé, c'est ne pas un verset pris dans la Bible, mais c'est le résumé de la pensée. Dieu avait dit à Abraham, parce que tu crois en moi, je te l'impute à justice et je te ferai de toi une grande nation. Abraham avait été considéré juste par Dieu parce que Abraham acceptait et reconnaissait Dieu comme étant Dieu et comme étant son Dieu. Et donc, de ce fait-là, Dieu le considère comme juste. Bien que c'était un pécheur. Et d'ailleurs, nous avons vu après qu'il a commis des péchés qui ont malheureusement produit des choses graves pour le peuple juif, notamment avec le fait d'avoir un enfant avec la servante qui a donné donc naissance au peuple arabe, musulman, plus tard. Et les Juifs savent qui était Abraham. Ils savent à quel moment Dieu s'adressait à lui. Quand Dieu s'adressait à Abraham, il avait 80 ans. C'était une personne âgée, qui n'avait pas de descendance à ce moment-là. Il vivait avec son épouse, il avait des servantes, mais il n'avait pas d'enfant. Il vivait dans une tente. C'était un nomade. Il était accueilli nulle part. Au contraire même. On ne voulait pas de lui. Il était en train de errer sur la surface de la terre. Et sa seule richesse, c'était son troupeau de brebis. Donc voilà de qui est issu le peuple juif. Donc il n'y a pas de quoi se glorifier. Eh bien justement, Dieu, à partir d'Abraham, a construit à partir de lui un peuple grand et puissant. Par sa descendance, Isaac, puis Jacob. Donc tout ça, ça fait partie des fondamentaux que tous les Juifs connaissent parfaitement. Le problème, c'est qu'ils l'ont confiné dans une sphère réduite où ils se sont interdits ou n'ont pas voulu, par la dureté de leur cœur, d'avoir une relation avec leur Dieu, une relation directe. Donc tout ça, c'est à la limite, c'est peut-être même idolâtré par eux, parce qu'ils savent qu'à partir de leur lien, ils sont devenus quelque chose, et que pour eux, ça représente quelque chose d'énorme, et d'ailleurs, on voit bien le combat qu'il y a en permanence entre Jésus et les religieux, qui en permanence se réclament d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui en permanence disent « Notre père c'est Moïse », nanana. Mais en fait, ces gens-là restent renfermés dans une sphère d'idolâtrie par rapport à ça, et de religiosité. Ils n'arrivent pas à franchir le cap de s'ouvrir et d'accepter le Seigneur, le Dieu dans leur cœur, de pouvoir se confier à lui et de pouvoir réellement vivre une relation d'amour avec ce Dieu. Ils en sont impossibles. Donc, il faut ce contexte de bombe qui explose, avec ce miracle, pour tout d'un coup, ils se mettent à frémir et ils se mettent à reconsidérer comment eux voient leur relation avec Dieu, et notamment en s'appuyant sur leurs fondamentaux initiaux. Donc, Pierre, il explique clairement, il dit, voilà, nous croyons en Jésus-Christ. Nous avons foi en lui. Nous avons invoqué son nom, et l'homme qui nous a écoutés a lui aussi accepté de croire en Jésus-Christ, a accepté de reconnaître le nom de Jésus-Christ, et c'est pour ça qu'il y a eu ce miracle-là. Parce que Dieu s'est glorifié dans son Fils, dans le Fils de notre Jésus-Christ, pour guérir cet homme-là. Donc là, il n'y a aucun mérite. Et donc là, de nouveau, il repositionne les Juifs. Il leur demande de finalement retourner au visage, à la personne de Jésus-Christ. Personne qu'ils ont crucifié il y a à peine 2 mois. Et justement, Pierre repart là-dessus. Donc si je puis lire, Pierre remue le couteau dans la plaie. C'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui sont assis sur des dômes, sur des croyances qui sont réelles, mais qui sont complètement enfermés et prisonniers de ce concept-là. Et donc, à nouveau, il leur parle de Jésus-Christ. Il dit, le miracle que vous voyez, qui vous étonne, qui vous choque, c'est dû au fait que nous ayons invoqué le nom de Jésus-Christ. Dieu vient de se manifester devant vous pour glorifier son fils que vous avez justement tué. Et donc, dans la suite du passage, Pierre, de nouveau, invoque ce qui s'est passé avec Jésus-Christ, avec le fait qu'il était amené devant Pilate, que Pilate, qui était un païen, avait reconnu son innocence et voulait le relâcher, alors que eux, manipulés par les religieux, voulaient le tuer. Et, de nouveau, il leur rappelle qu'ils ont demandé la délivrance d'un meurtrier pour mettre Jésus-Christ à sa place. Lui qui était juste. Donc ceci, avec ce choc du miracle, ils sont dans un moment, on va dire, où ils sont fragiles, parce qu'ils perdent leur repère avec tout ce qui vient de se passer, avec ce que Pierre vient de leur dire. Ils sont dans un moment, on va dire, d'instabilité intellectuelle, émotionnelle, parce que, justement, ce à quoi ils s'affairaient, ce à quoi ils croyaient ou pensaient croire, est remis en question. Ils sont dans le doute. Et également, pour certains, pas pour tous, ils commencent à prendre conscience qu'effectivement, ils ont tué un innocent en la personne de Jésus-Christ. Parce que le nom qui a été invoqué, c'est le nom de Jésus-Christ. Et grâce à cette invocation, le malade a été guéri. Et pour ça, je ferai un parallèle. Alors, je ne vais pas tout lire, je vais juste vous le mentionner. C'est dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 9. C'est un passage dans lequel Jésus-Christ guérit un aveugle de naissance. Dans ce chapitre, quand Jésus-Christ et les apôtres rencontrent cet aveugle, les apôtres demandent à Jésus-Christ, cet homme est aveugle. Est-ce à cause de son péché ou à cause du péché de ses parents? Et Jésus-Christ leur dit, il ne s'agit pas de ça, il s'agit en fait de montrer par son moyen la puissance de Dieu. Donc, Jésus-Christ va guérir cet aveugle de naissance en prenant de la boue et avec sa salive, il fait une pâte et il la passe sur les yeux. Et après, il lui dit d'aller se laver les yeux dans le bac de Siloé. Qui veut dire, je crois, envoyé. Et donc là, il utilise ceci pour en fait faire un témoignage auprès des Juifs, puisque normalement, les Juifs savaient de quoi il s'agissait. Et donc, si ils voyaient cet aveugle de naissance guéri en train de se laver au bac de Siloé, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a guéri et qui a une puissance pour le guérir. Et le seul qui peut faire ça, c'est Dieu ou le Fils de Dieu. Après, cet aveugle a été interrogé par les religieux juifs pour savoir comment était-il possible que lui, aveugle de naissance, puisse être guéri, et par qui surtout était guéri. Et donc, il y a toute une discussion, ils font venir ses parents pour savoir si vraiment c'est bien leur fils, s'ils le reconnaissent, s'ils savent pourquoi il était guéri. Donc eux, ils ont peur, ils ne veulent pas se mouiller, ils veulent pouvoir continuer à aller au temple, donc ils disent, demandez à lui, il est majeur, il pourra se débrouiller tout seul. Et s'ensuit après une espèce de procès d'interrogation entre ce monsieur qui était aveugle, qui était une victime d'une cécité, avec les religieux. Et il dit quelque chose de très intéressant. C'est dans le verset 30-33 que je vais vous lire, du chapitre 9. L'homme répondit, « C'est une chose étrange que vous ne sachiez pas d'où il est. » On parle de Jésus-Christ. « Et cependant, il m'a ouvert les yeux. » Or, nous savons que Dieu n'exauce point les méchants, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. On n'a jamais entendu dire que personne ait ouvert les yeux à un aveugle né. Si celui-ci n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Donc voilà. Donc si celui-ci n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Et donc, là, avec ce miracle, indirectement, c'est ce que Pierre dit aussi aux Juifs. Cet homme que vous avez crucifié, c'est bien le Fils de Dieu. parce que nous avons invoqué son nom, par la foi en son nom, nous avons pu réaliser, ou tout du moins, la foi en son nom a permis à ce paralysé de se mettre debout. Donc, c'est bien la preuve que vous, vous êtes des criminels parce que vous avez tué un innocent. Alors, c'est quelqu'un de juste. D'ailleurs, dans le passage, il mentionne le prince de la vie. Et donc, au verset 16 de l'acte 3, Pierre et Jean, eux, se positionnent. Globalement, ce qu'ils disent, bah, nous, on croit en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, ils savent que ce sont des apôtres. Ils savent que Pierre et Jean étaient en compagnie de Pierre, du Christ pendant tout son ministère. Donc, ils savent qui ils sont. Et donc, eux, ils témoignent de leur foi. Nous, on a foi en Jésus-Christ, on a invoqué son nom, et c'est pour ça qu'il y a eu ce miracle. Donc voilà, on est dans une situation où, si je puis dire, les Juifs ne savent plus quoi penser. Parce qu'ils se rendent bien compte que, dans leur mode de pensée, ils sont dans l'erreur. Ils viennent de prendre conscience, pour certains, qu'ils ont crucifié un innocent il y a 2 mois à peine, ou 3 mois. Et donc, si ce sont des gens qui ont une conscience et une âme, bah, ils sont mal. Ils sont mal dans la façon dont ils voyaient les choses auparavant, dans ce qu'ils ont fait, et finalement, ils sont confrontés à la vérité, celle de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Pourquoi vous avez tué Jésus-Christ? Donc là, Pierre, si je puis dire, leur passe la main sur l'épaule en disant « Homme frère » ou « Mes frères ». Alors, je reviens à l'acte 3. Oui, verset 17. « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, aussi bien que vos chefs. » Ignorance, oui, parce qu'ils étaient aveuglés par ce qu'ils pensaient être la vérité, eux, par leur croyance, et le fait qu'ils aient réfuté que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Donc là, on est dans un instant où, pour certains des Juifs, et c'est peut-être un moment que vous avez connu aussi vous, on a fait un moment de brisement. C'est-à-dire que ce sur quoi on s'appuyait, sur ce quoi on pensait être, tout ça s'effondre. On n'a plus de certitude. Et c'est un moment qui est, on va dire, un petit peu désagréable, parce que finalement, toutes les croyances, tout ce sur quoi vous vous appuyez, vous voyez que ça ne tient pas, que ça n'a pas de support, ça n'existe pas, ça part en fumée. Et donc, vous vous trouvez, comme on dit familièrement, dans un grand moment de solitude, parce que sur ce quoi vous vous appuyez, ça n'existe plus. Et vous n'avez pas encore... Vous êtes dans un passage de transition, vous ne vous appuyez pas encore sur la foi en Dieu, en Jésus-Christ et sur sa parole. Donc c'est un moment extrêmement angoissant. Et Pierre, à ce moment-là, il est dans cette situation vis-à-vis d'eux. Donc, Pierre produit chez les Juifs un désemparement spirituel. Donc là, de nouveau, Pierre fait appel aux fondamentaux. Parce qu'il veut, en fait, que finalement, que les Juifs se rendent compte qu'ils n'avaient pas compris correctement les fondamentaux sur lesquels ils s'appuyaient, mais que justement, comme des petits-enfants, ils doivent croire en toute simplicité. Et donc, à ce moment-là, il leur dit, « Repentez-vous donc, et vous convertissez, afin que vos péchés soient effacés. » Et à la suite de ça, il repart sur la parole du Seigneur, des choses qu'ils sont censés connaître. Mais à ce moment-là, dans l'état de brisement, de désemparement où ils sont, ils peuvent enfin de nouveau, ou à nouveau, ou pour la première fois, comprendre réellement les paroles qu'eux croyaient connaître depuis longtemps. Donc, à partir du verset 20, « Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il vous envoie celui qui vous a été annoncé auparavant, le Christ Jésus. » Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes depuis longtemps. Bon, il fait allusion aux prophètes que les Juifs connaissent. Car Moïse a dit à nos pères, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Écoutez-le dans tout ce qu'il vous le dira. Ils le connaissaient. Et quand Jésus-Christ est présent parmi eux, ils connaissaient cette parole-là. Mais ils ne reconnaissaient pas Jésus-Christ. Et ils s'attendaient encore à une autre personne. Il disait, lui, non, lui, c'est pas le Messie, c'est pas celui qui est annoncé par la parole. Il va venir, mais c'est pas lui. Et donc, dans le moment présent où ils sont là, les Juifs, là, brisés, désemparés, à nouveau, ils ont une opportunité de comprendre et surtout de croire, d'accepter la parole et de reconnaître que l'homme qu'ils ont crucifié de moi, eh bien oui, c'était le Messie, c'était celui qu'ils attendaient. Écoutez-le dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Autrement dit, périra en enfer. Donc là, c'est le salut. Croyant Jésus-Christ afin d'avoir la vie éternelle, de pouvoir vivre avec lui au paradis plus tard. Et si vous ne le faites pas, vous êtes condamné à l'enfer. En substance, c'est ce qui est ici indiqué par Pierre. Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ceux qui ont suivi ont aussi prédit ces jours. Vous êtes les enfants des prophètes, de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Donc là, de nouveau, il reprend les concepts que eux connaissent, mais cette fois-ci, éclairés, si je puis dire, par le fait d'être brisé, d'être dans l'émoi et de comprendre qu'ils avaient tout faux, ils peuvent à nouveau, ils ont l'opportunité à nouveau de croire réellement et d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur, et à partir de là, de nouer réellement une relation personnelle avec lui, et non plus d'avoir cette vie quotidienne, train-train, d'aller au temple, de prier, donner l'aumône pour se donner une bonne conscience, etc., etc. À partir de ce moment-là, pour certains, ça va être l'occasion réellement de partir sur des bonnes bases, celle d'une foi sincère en Seigneur Jésus-Christ. Et en ce qui nous concerne, dans le cadre de l'évangélisation, c'est ce que il devrait être possible de réaliser, mais c'est pas possible. Enfin, c'est très difficile pour nous, quand on s'adresse à une personne, qu'on veut lui parler de Dieu, de la parole, c'est très difficile de connaître tout son historique, son arrière-plan. Il n'y a que Dieu qui puisse et qui connaisse l'arrière-plan d'une personne, et il n'y a que Dieu qui puisse nous guider, nous, dans les paroles que nous aurons à dire, en nous appuyant sur des versets de la Bible, guidé par Saint-Esprit, pour pouvoir toucher le cœur de cette personne-là, parce que cette personne-là ne pourra réellement changer que si il y a dans son cœur un effondrement, un brisement, on va dire, une destruction totale de son système de croyance. Et c'est pour ça que l'évangélisation est difficile, en ce sens que pour nous, il nous est nécessaire de nous en remettre au Seigneur Jésus-Christ, afin que par son Saint-Esprit, il nous guide et nous permette, sans que nous le sachions, donner les paroles de vie, comme il est indiqué dans la parole, adéquates à la personne à qui nous avons en face de nous. Merci pour votre écoute. Merci.